7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, un peu de géographie. Quelle sexualité autour du monde ou la face cachée des guides touristiques? Car s'intéresser à la sexualité d'un pays, c'est forcément chercher à en décrypter la culture, l'image du corps ou encore les tolérances et les limites de la religion. En Italie, en Inde, en Chine, au Japon, en Colombie, s'aime-t-on exactement de la même façon? Vous allez avoir quelques éléments de réponse à travers un voyage peu ordinaire. Bonjour Antonio Fischetti.
Bonjour.
Vous collaborez à RFI, mais plutôt en tant que journaliste scientifique, chez Autour de la question. Ce qui ne vous empêche pas quelques déviances avec un livre plein d'humour, Sac à dos et libido, les pays racontés par leur sexualité aux éditions Jean-Claude Lattès. Combien de pays vous avez parcouru sur cette thématique?
Pas mal. Alors ici, disons, dans ce livre, je parle d'une quarantaine de peuples. Je suis allé dans la plupart des pays dont je parle, mais j'ai pas forcément expérimenté les pratiques en question.
Je vous sens prudent.
Voilà.
Non, oui, en tout cas, on va bien expliquer aux auditeurs. Il ne s'agit
bien
pas de
sûr.
Tourisme sexuel, bien sûr, mais plutôt de curiosité pour l'altérité. Une promenade dans les culottes de l'humanité, vous écrivez. Vous êtes plutôt ethnologue qu'exploiteur, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire là, je fais un travail de journaliste scientifique. Je me base sur l'expérience de terrain, c'est-à-dire parce que quand on parle d'un pays, c'est bien quand même d'y être allé. Aussi sur des témoignages donc que je récolte et sur des études scientifiques d'ethnologues, de démographes, de médecins, de sociologues, etc. Vous voyez, donc il y a ces trois aspects qui se complètent tout à fait pour aborder cette question extrêmement complexe de la sexualité dans les différents pays.
Sac à dos et libido, on va bientôt ouvrir votre livre. On sera aussi en ligne avec Najed Benrabah, correspondante de RFI à Medellin, qui nous racontera cette célébration équivoque de la quinzaine où des jeunes filles fêtent leur entrée dans la féminité le jour de leurs 15 ans. Pas vraiment en retard, les Colombiennes. Constantin Simon, journaliste à France 24, nous racontera ce qu'est le Viagra de l'Himalaya et qui lui a inspiré un roman. Bref, c'est déjà l'été chez 7 milliards de voisins.
Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui à Yopougon, plus précisément Palais, voir les gens et poser la question suivante. Comment draguer une fille?
Bonjour Noah.
Bonjour.
C'est quoi votre prénom?
Fernanda.
Ah, Fernanda, c'est Fernande en français.
Oui.
Ah bon. C'est très joli comme prénom.
Oh oui.
Très joli.
Mademoiselle, t'es charmante, ça te dirait une glace à la main.
Pays pas intéressé.
Bon, si je la vois, bon, je peux l'appeler ma chérie, s'il te plaît.
Bon, selon moi, il peut approcher la fille simplement, commencer à causer. Ah, ma chérie, ça va, oui, ça va. Genre sympathiser, quoi, et puis après lui demander son numéro. Si la fille aussi, elle est polie, elle peut lui donner tranquille, mais ça dépend de la mère dont tu vas l'approcher aussi.
C'est votre mari, le monsieur sympathique qui fait cuire de l'eau, là?
Ah non, on a mis comme
d'accord. Et l'autre abruti qui est dans la pièce à côté?
Tutti amici.
Ah, voilà. Tutti amici. Et Bonardo.
Oh pardon, je suis affreusement maladroite. Apparemment, je vous ai éclaboussé.
Mais je vous en prie. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'une femme qui éclabousse un homme, c'est un peu comme la rosée d'une matinée de printemps? C'est la promesse d'une belle journée et la perspective d'une soirée enflammée.
Quel réveil!
Ah, je n'y suis pour rien. C'est l'inexpugnable arrogance de votre beauté qui m'asperge.
Je t'aime. What do you put?
Oh, it's so ugly when you speak French.
Antonio Fischetti, vous prévenez d'emblée vos lecteurs, la sexualité, le plaisir sont techniquement quand même assez limitées et universelles, ce qui n'empêche pas la sexologue chez Priorité Santé de répondre à des questions tout à fait infinies. Mais c'est un peu comme la cuisine quand même, hein. On a toujours les mêmes ingrédients, c'est finalement l'art d'accommoder les plats qui varie.
Oui, c'est ça qui est assez fascinant avec la sexualité, puisque bon, l'aspect physiologique, effectivement, on peut dire, hein, il est quand même relativement limité, même s'il y a beaucoup de diversité, mais bon, c'est assez limité. Ensuite, c'est une affaire intime, hein, qui concerne une ou deux personnes, voire plus, mais enfin, en tout cas, qui concerne l'intimité, mais c'est lié totalement à la société, puisque selon les pays où l'on se trouve, les tabous, les interdits ne vont pas être les mêmes. Ce qui est valorisé dans un pays peut être au contraire extrêmement choquant dans un autre. Les mythes aussi, la religion, tout ce qui fait les rapports homme-femme, par exemple, tout cela va entraîner avoir des conséquences pratiques sur la façon dont les gens vont considérer les rapports sexuels. Et puis, voilà, il peut y avoir des inventions, des codes, des rituels qui ne sont pas les mêmes selon les pays.
Et parfois surprenants. Mais est-ce que, dans le fond, il existe une géopolitique des sexualités avec des blocs, des tendances, des ententes?
Oui, géopolitique, je dirais peut-être pas ça, parce que bon, c'est quand même un peu difficile. Bon,
entre l'Europe du Sud, l'Europe du Nord, il y a quand même des différences.
Tout à fait. Alors, ces différences sont liées. C'est une politique, en fait. Oui, c'est vrai, oui, vous avez
l'Italie
raison.
L'Italie et l'Allemagne, c'est pas tout à fait la même chose.
Voilà, tout à fait. Alors, il y a une géopolitique, effectivement, on peut le dire en ce sens. Par exemple, dans les pays du Nord, la nudité est beaucoup moins taboue. Donc, il va y avoir le naturisme qui est beaucoup plus développé, comme en Allemagne, par exemple, sa première fédération naturiste du monde a été créée en Allemagne en 1918.
Oui, ça, j'ai découvert ça, effectivement, c'est incroyable. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'ils font les Allemands? Il crée une fédération du naturisme.
Oui,
ça peut sembler absolument surprenant.
A posteriori, peut-être qu'on peut l'expliquer, je ne sais pas hein, ça, mais je me lance dans une explication qui n'engage que moi. Mais on pourrait se dire aussi, effectivement, il y a eu la boucherie, il y a eu l'horreur de la guerre. Et,
déshabillons-nous.
Voilà, déshabillons-nous. Et il y a eu ce qu'ils appellent en Allemagne la culture du corps libre. Justement, après la boucherie de la Première Guerre mondiale, les gueules cassées, etc. Ils sont passés des gueules cassées aux fesses à l'air, en fait, d'une certaine façon. Alors que dans les pays du Sud, effectivement, traditionnellement, le poids de la religion catholique en Italie, en Espagne, fait que donc, le corps est beaucoup plus caché. Mais en fait, tout ça est assez variable. Par exemple, effectivement, en Amérique du Sud, il y a au contraire une exhibition du corps beaucoup plus valorisée au Brésil. Dans certains pays, les pays notamment où la religion islamique est très forte, que ce soit par exemple en Iran, en Arabie Saoudite, c'est l'inverse. Le corps est extrêmement caché, surtout celui des femmes. Mais il peut y avoir, à contrario, une sorte d'hypocrisie d'une certaine manière, parce que les gens, même dans les pays où, disons...
C'est pas là où on montre le plus que la sexualité est forcément la plus débridée.
Pas forcément, voilà.
On va le voir au cours de votre voyage. L'Italie du Sud, vous racontez que les jeunes habitent tard chez leurs parents. C'est là où on voit que le poids de la société a du coup mécaniquement une influence sur la sexualité. Du coup, où se passent les rencontres intimes? Vous racontez des scènes presque poétiques, finalement, à Naples.
Oui, c'est vrai, c'est poétique. Par exemple, à Naples...
Être sordide, mais...
non, c'est... À Naples, donc, il y a eu, disons, une tradition qui s'est développée, c'est l'amour en voiture. Donc, on peut dire que ça se fait à peu près partout dans le monde, mais c'est quasiment institutionnalisé à Naples, puisqu'il y avait un parc sur la hauteur de la ville, au-dessus de la baie de Naples, où les amoureux donnaient rendez-vous. Hein, et il y avait même, à une certaine époque, des gens qui vendaient des journaux avec du scotch pour mettre sur les vitres. On voit ça dans certains films. Et comme au bout d'un moment, bon, les gens ont dit, c'est peut-être pas non plus très, très bien de faire ça comme ça.
Il y avait aussi une peur des agressions.
Oui, il y avait eu des agressions. Mais ce qui s'est passé, c'est que donc, des Napolitains ont eu une idée de créer un love parking, c'est-à-dire c'est sécurisé, c'est un parking. Les gens viennent en voiture.
Les couples, hein.
Et ils louent donc un emplacement. Et c'est pas cher, je crois, c'est quelques euros, mais c'est tout à fait, vous voyez, là, légal, autorisé, c'est pas du tout de la prostitution. Donc, ce genre de choses n'existe, à ma connaissance, qu'à Naples.
Oui, d'autant plus qu'il y a quand même toujours les mêmes lois que chez nous en France. L'attentat à la pudeur est réprimé, donc interdiction d'avoir des relations sexuelles sur la voie publique.
Tout à fait. Alors, ce qui est interdit en France aussi, dans beaucoup de pays, hein, c'est l'attentat à la pudeur, c'est-à-dire si on fait l'amour dans une voiture, il ne faut pas pouvoir être vu par autrui. Donc,
d'où les journaux.
D'où les journaux. Mais enfin, disons, les policiers peuvent arriver, en France notamment, et dire, attention, vous pouvez quand même être vu, donc du coup, c'est quand même interdit, a priori. Mais bon, il y a une certaine tolérance.
L'avantage du love parking à Naples, hein, c'est que vous décrivez que quand on sort de la voiture pour fumer sa cigarette après l'acte sexuel, il y a quand même une vue imprenable sur la baie de Naples, et que c'est quand même pas mal. Ça.
C'est très poétique, là, effectivement, oui.
Alors, vous le disiez, ça n'a rien à voir avec la prostitution. En Allemagne, pourtant un pays voisin de la France, on se rend compte que la prostitution n'est pas du tout légiférée de la même façon par rapport à la France. Notamment, les maisons closes sont encore légales en Allemagne, alors qu'elles sont interdites depuis 1946 en France.
Oui, alors ce rapport à la prostitution, vous voyez, il est très complexe. Hein. Disons, il y a dans certains pays comme la France, bon, donc dénigrement de la prostitution. Alors après, que ça soit bien ou pas, ça c'est pas ma question. En revanche, dans d'autres pays comme l'Allemagne, on se dit voilà, plutôt que d'interdire la prostitution, par exemple au centre-ville ou de pourchasser les clients, etc. On va autoriser la prostitution et ainsi ça sera mieux pour les dames qui pratiquent ce métier. Et donc il y a ce qu'on appelle les FKK. C'est aussi disons dérivé de la culture du corps libre aussi naturiste, mais sauf que c'est il y a du naturisme, mais c'est surtout en fait sont surtout des maisons closes qui sont totalement légales au centre-ville, elles sont dans l'annuaire, il y a des sites internet et de l'avis disons des professionnels qui travaillent dans ces institutions, elles disent toutes qu'elles sont mieux là que dans la rue ou au fond des bois ou dans des lieux encore plus malfamés ou bien en travaillant chez elles et en recrutant leurs clients sur Internet, puisque dans les FKK, elles sont protégées, elles ne peuvent pas se faire agresser, puisqu'il y a un service d'ordre, etc.
Ouais. Et ça, c'est un sacré débat, effectivement, l'encadrement ou pas de la prostitution. Il y a eu une tentative du maire de la ville de faire... ça c'est concernant Amsterdam. Amsterdam et les femmes nues en vitrine. Là aussi, il y a un sacré débat, parce que là, pour le coup, c'est ouvert à tous les voyeurismes. Les gens qui regardent ces femmes nues en vitrine, très connues, hein, évidemment, ce fameux quartier rouge près de la gare, ne payent pas. Et ça a suscité de nombreux débats. En 2018, il y a eu une tentative du maire de la ville, je crois, de faire fermer ses commerces ouverts au voyeurisme. Ça ne s'est pas fait.
Alors, c'est toujours en cours. Hein. J'ai contacté là, dernièrement, donc avant l'édition de ce livre, la municipalité d'Amsterdam pour savoir où ça en était. C'est toujours un projet en cours. Et la municipalité, justement, voulait déplacer ce quartier avec ses femmes en vitrine, puisque ce n'est pas très politiquement correct. Les femmes qui travaillent là-dedans se sont mobilisées en disant « Nous, on veut rester là parce que on préfère être là parce que c'est plus sécurisé que d'être renvoyé dans une périphérie où on serait beaucoup plus soumise au risque d'agression. Mais néanmoins, alors moi je donne aussi mon point de vue dans ce livre, hein, mon point de vue c'est qu'effectivement elles sont au chaud, elles sont derrière des vitrines, mais c'est l'image d'une femme en vitrine qui est dégradante. Et surtout, je pense, le fait qu'il y ait beaucoup de touristes qui viennent là un peu comme au zoo. Et du coup, si elles étaient dans un lieu où il n'y aurait que les clients, finalement, il y aurait moins de touristes et elles seraient moins objets de voyeurisme.
C'est d'autant plus surprenant que c'est dans le même pays, finalement, qu'on a vu arriver, pas que aux Pays-Bas, mais dans ces pays-là, en tout cas, on a vu arriver l'arrivée du genre neutre, hein, qui est arrivé en Europe du Nord, mais on voit ça aussi aux Pays-Bas, avec des WC neutres, ou donc des WC qui, pour des personnes qui ne se sentent ni homme ni femme.
Exactement. Alors, il y a donc un certain nombre de personnes, c'est pas du tout négligeable les pourcentages. Hein,
650 000 personnes qui ne se sentent pas bien dans la case homme et qui ne se sentent pas bien dans la case femme. Vous citez le porte-parole de la Ligue LGBT.
Oui, voilà. Alors, ce sont alors soit des transgenres hein, qui se disent voilà, nous on est ni homme ni femme, ou bien des gens qui sont nés aussi avec un sexe indéterminé, ce qu'on peut appeler les hermaphrodites par exemple, et qui se disent non-binaires. Et donc il y a, alors c'est les Pays-Bas sont assez pionniers effectivement en la matière, puisque donc dans certaines universités, aussi à la municipalité d'Amsterdam, même dans les documents officiels ou à la gare par exemple, on ne dit pas messieurs ou mesdames. Messieurs, mes chers concitoyens, vous voyez, pour éviter...
Ou chers voyageurs.
Chers voyageurs.
Il me semble que ça arrive aussi en France, ça, le cher voyageur, pour éviter le mesdames, messieurs. Comme ça, au moins, il n'y a plus de problème. Voilà. En tout cas, à l'autre bout du monde, la question du genre ne se pose pas vraiment. On va partir bientôt pour la Colombie, pour un anniversaire d'un genre un peu spécial, c'est le cas de le dire.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, bienvenue.
En Colombie. Arrivé à l'âge de 15 ans, il se passe une étape très importante pour les Colombiennes et pour leur famille. Une grande fête est organisée pour l'occasion. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec notre correspondante en Colombie à Medellín. Bonjour Najet Benrabah.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous et à toutes.
Alors, de quoi s'agit-il? Quelle est cette fameuse fête des 15 ans? Comment dit-on en espagnol?
Alors, on dit quinceañera. Et au départ, cette fête a quand même des racines catholiques, religieuses en Colombie, mais peu avec le temps, c'est devenu quelque chose de culturel. En clair, comme vous l'avez dit, les familles organisent une sorte de fête. Là, c'est un bal pour célébrer le passage symbolique de l'âge de jeune fille à celui de jeune femme. Et la jeune fille vit donc un rituel de passage vers la vie adulte. Ici, on demande aussi à la fille de danser avec son père une valse. Tout est fait en grand, surtout la tenue de la fille est habillée comme une princesse avec une grande robe et les invités doivent aussi bien sûr se mettre sur leur 31. C'est une pratique qu'on retrouve toujours en Amérique latine mais aussi dans les communautés hispaniques en Amérique du Nord aussi. Mais il y a plusieurs variantes, cela dépend des désirs de la jeune fille. Par exemple, ce vendredi je vais participer à une quinceañera. La jeune fille est une cavalière, elle va donc faire son entrée sur le dos d'un cheval avec sa robe de princesse et faire une démonstration de saut d'obstacle avant de rejoindre les invités pour bien sûr danser la valse avec son père. Ensuite, la jeune fille dansera avec un groupe d'amis une chorégraphie sur de la musique pop et le bal sera lancé pour tous.
Et donc les parents font le maximum financièrement pour cette fête?
Oui, car c'est aussi une marque en fait d'un statut social. Pour les parents, c'est la vitrine en quelque sorte de leur réussite professionnelle et sociale. Ces fêtes sont d'ailleurs très coûteuses et demandent des mois d'organisation. C'est le même niveau d'exigence que pour l'organisation d'un mariage. Vous avez des agences spécialisées qui ne font que ça. Ensuite, bien sûr, tout dépend des budgets des familles. Toutes les familles colombiennes n'organisent pas de grands bals dans les salles de réception. La quinceañera peut être organisée dans le patio de la maison avec des amis et un repas sain, bien sûr. Il n'y a aucune obligation. Mais quoi qu'il en soit, il faut marquer l'événement. C'est un rituel. Ces dernières années, on a vu aussi une nouvelle tendance. Plusieurs jeunes filles demandent de ne pas organiser de quinceañera, pas de fête officielle ni en grande pompe, mais elles préfèrent que l'argent soit utilisé pour un voyage. Par exemple, une amie colombienne me racontait qu'elle a préféré voyager au Pérou avec son père pour ses 15 ans.
Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment pour la jeune fille finalement, ce rituel qui marque un changement pour elle, son entrée dans la sexualité?
Oui, c'est un peu ça. C'est un rituel qui va changer finalement le regard des autres sur elle et notamment de ses propres parents. À partir de ce moment, on va donc considérer qu'elle entre dans une étape de plus sexualisée. C'est une jeune femme, sa féminité est donc plus exprimée. D'ailleurs, le jour de la fête, avec tout le maquillage, la robe, elle est déjà dans une stature vraiment adulte. Et donc, on va admettre aussi et considérer qu'à partir de ce moment-là, les relations sexuelles, les relations amoureuses sont plus considérées. Du moins, dans le rituel, on va dire, dans la théorie. Car ensuite, tout dépend bien sûr de chaque famille et des convictions religieuses. Car vous le savez, la Colombie est un pays majoritairement catholique.
Merci beaucoup, Najet Benrabah. Entre l'affichage et ce qui se passe sous les draps, il y a souvent un monde. Vous êtes au courant de cette pratique, Antonio Fischetti, cette tradition, en fait, c'est vraiment une tradition culturelle.
Oui, oui, j'y consacre un chapitre dans mon livre et je suis allé plusieurs fois en Colombie et j'ai interviewé aussi plusieurs Colombiennes qui donc sont passées par ce rituel. Hein. Et effectivement, alors moi, dans mon livre, hein, je parle de la sexualité au sens très large. Il n'y a pas que les pratiques sexuelles, mais tout ce qui entoure la sexualité et cette tradition, la quinceañera, c'est effectivement comme une entrée dans l'âge de féminité. La jeune fille, elle va donner une poupée, d'enfance à une autre jeune fille, c'est-à-dire en quelque sorte, vous voyez, tout est symbolique. C'est maintenant, je ne suis plus une petite fille et je peux symboliquement avoir des relations sexuelles, ouais. Même si dans la pratique, ça reste quand même très tabou.
Sous-entendu un peu avec la permission du père, il y a un truc un peu bizarre quand même là-dedans, non?
Alors j'ai justement.
Enfin, vous semblez mal à l'aise.
J'ai interviewé des Colombiennes qui m'ont dit que effectivement cette danse qu'elle fait avec son père très sexualisée finalement symboliquement évidemment, elle était très mal à l'aise puisqu'elle l'a vécu presque comme une forme d'inceste, vous voyez, symbolique. Genre maintenant je suis une femme, je peux me maquiller, etc. J'ai les atouts de la féminité et c'est mon père qui me donne l'autorisation. Cette Colombienne que j'ai interviewée m'a dit qu'elle avait vécu ça de façon assez justement, c'est désagréable.
Alors bien sûr, il y a les traditions culturelles, il y a ce qui en reste aujourd'hui, il y a des revendications aussi mondiales, véhiculées par l'Internet, et cette notion d'épanouissement sexuel, notamment réclamée par les femmes, qui cohabite avec les conservatismes, avec la religion. Est-ce que vous diriez, Antonio Fischetti, que la religion est presque partout utilisée encore pour encadrer, pour contrôler, pour restreindre la sexualité ?
Bah tout à fait, mais puisqu'il suffit de regarder les pays effectivement où la religion est très importante, la première chose que la religion muselle, contrôle, c'est la sexualité avant tout. Hein. Alors sexualité, c'est-à-dire interdiction par exemple des rapports homosexuels. Les homosexuels sont les premières victimes, les femmes et les homosexuels, hein, premières victimes de ces mesures, puisque dans les pays comme l'Iran, comme le Soudan, etc. Donc ils peuvent subir de peines très lourdes qui peuvent aller jusqu'à la mort. Donc le libertinage qui peut aller simplement, enfin disons, de l'adultère, lui aussi peut être puni dans les pays où la religion est très forte. Mais aussi, par exemple, dans certains pays, il n'y a pas que les religions islamiques, hein, les pays comme les États-Unis où les évangéliques sont très puissants, il y a encore des lois qui punissent certaines pratiques sexuelles comme la sodomie, ce genre de choses, qui sont en théorie interdites dans un grand nombre d'États. Certains États ont aboli ces lois, mais elles existent encore, même si elles ne sont pas forcément mises en application dans beaucoup d'autres États.
Et puis il y a des surprises. La Thaïlande, comment expliquer qu'un pays qui réprime de nombreuses libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression politique, ne réprime pas, par exemple, les transsexuels ?
Oui, alors effectivement, en Thaïlande, il y a beaucoup de transsexuels, on peut dire qu'il y en a dans d'autres pays aussi, mais par exemple en France, on peut en voir peut-être dans certains bars ou certaines discothèques branchées le soir, mais socialement, dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, ils ne sont pas forcément visibilisés. Alors qu'en Thaïlande, ils sont très fréquents, on les appelle des ladyboys. On peut en trouver par exemple qui conduisent des bus dans les magasins, et ça ne choque personne, c'est vraiment admis, ils sont beaucoup plus visibilisés. Et alors, comment ça s'explique ? Effectivement, certains expliquent ça par la religion bouddhiste, c'est-à-dire que il y a une réincarnation dans cette religion, et on peut être réincarné en ladyboy. Donc du coup, il ne faut pas les persécuter, puisque nous-mêmes, on pourrait être réincarnés de cette façon-là, vous voyez. Et c'est un petit peu comme une peur d'être réincarné en transsexuel qui fait qu'on les respecte et on les tolère davantage.
C'est une religion, dites-vous, qui reconnaît quatre sexes. Hein. Donc, oui. L'homme, la femme, les transsexuels et puis l'hermaphrodite.
Oui, voilà. Donc, aussi, il y a une reconnaissance. Alors, évidemment, il peut y avoir aussi dans la pratique quelques persécutions, mais en tout cas, socialement, c'est le pays qui a le plus... valorise le plus les transsexuels. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de cliniques même qui font ce genre d'opérations de changement de sexe. Et il y a même un tourisme médical, beaucoup d'Européens qui vont en Thaïlande exprès pour pratiquer un changement de sexe.
Mais il y a aussi des ladyboys qui n'ont pas pratiqué de chirurgie, qui ne suivent pas nécessairement de traitements hormonaux et qui se contentent finalement de changer de sexe par leur apparence, par leurs vêtements.
Oui, c'est-à-dire que, vous voyez, souvent, on peut avoir cette image qui est peut-être une image, je ne sais pas si elle est fréquente ou pas, mais de transsexuels très sexualisés, qui seraient presque dans un monde où l'érotisme, le sexe est très important. Alors qu'en Thaïlande, bon, on peut avoir des transsexuels qui sont, comme je disais, chauffeurs de bus, employés de banque, sans forcément d'extravagance en fait, ni vestimentaire. Et on peut simplement deviner, par exemple, qu'il s'agit d'un homme biologique à certains traits du visage, une mâchoire un peu plus masculine ou ce genre de choses.
Mais personne ne s'en soucie,
tout à fait. Il n'y a pas de regard ni curieux ni dévalorisant.
Il y a même des concours de beauté pour personnes transsexuelles.
Oui, il y a des concours de Miss transsexuelles qui sont retransmis à la télévision. Il y a des prix très importants à gagner. gagner. Et, oui, il n'y a aucun voyeurisme là-dedans,
et,
effectivement.
Et donc, ces personnes ne sont en rien persécutées ou tracassées par les autorités administratives ?
Il peut y avoir quand même, hein, donc ça, dans les associations transsexuelles, relatent parfois de, voilà, des, bon, parce que tout le monde n'est pas aussi tolérant. Finalement, il y a une tolérance un petit peu sociale, mais au cas par cas, donc il peut y avoir aussi, on ne peut pas dire que tout est parfait dans le meilleur des mondes dans ce domaine, hein, pour les transsexuels. Non, c'est sûr, même en Thaïlande.
Vous restez avec nous, Antonio Fischetti. Dans quelques instants, on entendra, nous serons en ligne avec Constantin Simon de France 24, très inspiré, comme vous d'ailleurs, par le Viagra de l'Himalaya. Vous avez consacré une partie de votre livre au sujet. C'est un assez triste commerce sur le toit du monde, mais évidemment qui fait rêver les voisins. Il nous racontera son voyage, Constantin Simon, et il répondra à quelques questions essentielles. On se retrouve juste après Captain Planet avec la chanteuse brésilienne-indonésienne Zuzu Capo de Rosa et le franco-italien Raphaël Futura. De quoi patienter avant de grimper très très haut. Milliards de voisins, vous écoutez RFI. Nous sommes en compagnie d'Antonio Fischetti. Vous publiez quelques récits de voyage avec un but bien clair, sac à dos et libido. Un titre qui ne laisse pas d'équivoque, qui est chez Jean-Claude Lattès. Et finalement, vous racontez les sexualités autour du monde à travers la façon dont les hommes et les femmes se projettent leur vision du corps, la culture, la religion, les traditions culturelles aussi. J'ai annoncé que dans quelques instants, on allait rejoindre notre correspondant de France 24 pour parler du Viagra de l'Himalaya. Encore quelques minutes de patience, les voisins et les voisines. Vous avez aussi enquêter sur un peu tout ce qui est médecine du sexe, Antonio Fischetti. Oui. Médecine esthétique, si on peut dire, et le sexe est aussi concerné, les organes génitaux sont aussi concernés que le visage dans la médecine esthétique. Mm-hmm. Vous citez, puisqu'on était en Thaïlande tout à l'heure, vous citez le blanchiment du pénis.
Oui.
Au laser ou avec, oui, des crèmes blanchissantes. Alors ça, c'est quand même assez surprenant. Hein.
Oui, c'est surprenant, puisque il se trouve que les organes génitaux sont naturellement plus foncé que le reste du corps. Donc, c'est donc des processus hormonaux tout à fait normaux. Mais il y a des gens qui trouvent qu'à ce moment-là, c'est trop foncé et veulent se faire blanchir, notamment le pénis. Et il y a des cliniques qui proposent ce genre d'opération, surtout en Thaïlande. Ça s'est développé considérablement dans ce pays. Alors, je précise tout de suite quand même que c'est quand même déconseillé par les médecins, puisqu'il peut y avoir des inconvénients, des effets secondaires, si l'opération est mal réalisée, notamment. Et puis, cela relève
d'un fantasme néocolonial.
Totalement critiquable, oui.
De s'éclaircir la peau, y compris le sexe, c'est quand même assez curieux.
Oui, et puis de toute façon, ces histoires de blanchiment, vous voyez, quand vous regardez, par exemple, les Européens, les Français par exemple, il est valorisé d'être plutôt bronzé, on va faire des UV, on va à la plage, c'est presque comme si on avait un certain standing par exemple si on est bronzé en hiver, ça veut dire qu'on a le moyen d'aller au sport d'hiver ou de faire des UV, et c'est l'inverse dans des pays comme en Afrique notamment, où les gens ont tendance plutôt à se blanchir en utilisant des crèmes. Et pour les organes génitaux, eh bien on peut retrouver aussi la même chose, effectivement peut-être que c'est un peu comme si la peau foncée était un petit peu mal considéré, ce qui est totalement absurde, évidemment. Donc c'est totalement déconseillé par les médecins, ce genre de choses.
Cette médecine esthétique du sexe, elle rentre bien dans un marché mondial, finalement, de la sexualité, où on a peur de la couleur, on a peur aussi du vieillissement. En Europe, dans les pays occidentaux, il y a des femmes complexées par leur âge, qui font appel à des chirurgiens esthétiques pour refaire leurs organes génitaux féminins aussi. Hein, pour qu'ils aient l'air plus jeunes. Oui. Ça peut sembler aussi assez surprenant. Vous restez avec nous dans quelques instants, Antonio Fischetti. En effet, nous partons pour l'Himalaya avec notre correspondant Constantin Simon.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Un autre voyageur, en effet, se joint à nous sur un sujet que vous connaissez. Constantin Simon, journaliste à France 24 et écrivain. Bonjour Constantin Simon.
Bonjour Emmanuel.
Votre deuxième roman s'intitule Yarshagumba, je ne sais pas si je le prononce bien. Dites-nous de quoi s'agit-il ?
Eh bien, il s'agit donc du fameux Viagra d'Himalaya, comme on l'a surnommé. Alors, c'est un Viagra naturel, je précise tout de même. C'est en fait un champignon, dont le nom scientifique est Cordyceps sinensis, ou champignon chenille, parce qu'il a la forme d'une chenille. Ça ressemble vraiment, si vous voulez, à une petite chenille. En fait, c'est une chenille qui a été parasitée, qui a été dévorée, pénétrée par un champignon. Et en fait, c'est un des mystères de la nature, puisque ce champignon ne pousse qu'à 4000 mètres d'altitude environ, au-dessus de 4000 mètres. Et il a des vertus aphrodisiaques, sexuelles et plus généralement de bien-être, si vous voulez. Alors moi, j'ai eu la chance de le découvrir lors d'un reportage, un des plus beaux reportages de ma vie, puisqu'il a fallu aller vraiment très, très haut, marcher pendant 3 semaines, entouré de yaks et des plus belles montagnes du monde. Et en fait, là, j'ai découvert sur le toit du monde un trafic énorme parce que donc tous les Népalais des hauts plateaux en fait affluent, femmes, enfants, grands-pères, tout le monde vient, si vous voulez, cueillir ce champignon, essayer de cueillir parce que c'est pas facile, c'est à peine visible, il faut vraiment ramper, si vous voulez, dans l'herbe et essayer de trouver ces petits champignons. C'est absolument sidérant de voir toute l'économie, si vous voulez, de l'Himalaya qui se concentre sur ce champignon, parce qu'en fait, il se vend plus cher que l'or à Shanghai ou à Tokyo et dans des grandes métropoles d'Asie, 50 à 100 euros le gramme.
Et vous en avez fait un roman ?
Oui, alors j'en ai fait un reportage vidéo, et puis après, je me suis dit que ça pourrait faire aussi un roman assez incroyable. J'ai pas résisté, ça m'a donné envie d'écrire, c'est tellement une histoire folle, si vous voulez.
Les Népalais, est-ce qu'ils consomment eux aussi ce Viagra de l'Himalaya ou c'est trop cher ?
Oui, c'est un peu cher. En fait, les Népalais, ils préfèrent le vendre aux Chinois. Le Népal, c'est un pays quand même assez conservateur, majoritairement hindou. Ça ne va pas forniquer partout, si vous voulez. Mais c'est vrai que j'étais étonné de découvrir, moi qui connais bien ces régions finalement assez conservateurs sur les questions du sexe, de découvrir qu'en fait, sur le toit du monde, au moment de cette cueillette, il y a beaucoup de jeunes gens qui se rassemblent et qui passent comme ça 2 mois sur le toit du monde, avec en plus beaucoup de champignons dans leurs poches. Donc il y a des contacts, il y a aussi beaucoup d'histoires assez incroyables qui tournent autour du coin du feu, des gens qui vous racontent que ne débandaient plus pendant plusieurs jours, qui sont réveillés un matin avec un pénis en forme de chenille ou de brosse à dents. Enfin voilà, c'est un mélange de légende et de réalité, mais c'est assez fascinant.
Le principal marché pour ce Viagra qui se vend plus cher que l'or, vous le disiez, c'est la Chine ?
Voilà, alors en Chine, il est consommé depuis la nuit des temps, hein, notamment les empereurs, pendant des siècles, les empereurs de Chine en consommaient, parce que dans le taoïsme, la longévité, le pouvoir du souverain est lié à sa sexualité. Hein. Et puis ça a continué hein, jusqu'au XXe siècle. On dit que Mao Zedong, hein, vous savez, Mao Zedong avait un harem avec des jeunes filles de tout le pays, hein, souvent vierges, qui étaient toquées du père de la Révolution. Il y avait souvent 3, 4, 5 femmes par soir dans son lit. Et ben, Papy Mao, il utilisait du Yarshagumba. Voilà. Il utilisait aussi des injections de poudre de bois de serre ou des choses un peu bizarres comme ça. Mais voilà, c'est sûr que les businessmen modernes, les gens un peu riches, évidemment, parce que ça coûte cher, utilisent en Chine ce champignon. On le voit d'ailleurs à Shanghai, hein, si vous allez dans l'équivalent des Champs-Élysées à Shanghai, vous allez voir des grands magasins, un peu des sortes de supermarchés du bien-être où il y a plein de produits un peu bizarres comme les aiment les Chinois, des nids d'hirondelles, et vous allez trouver ce champignon à la forme de chenille.
Dernière question, forcément, Constantin Simon, vous n'y échapperez pas. Vous l'avez testé ?
Et oui, évidemment, vous me connaissez, Emmanuel. J'ai pas pu résister. J'étais là-haut, j'avais marché 3 semaines. Donc, évidemment, je me suis acheté 400 $ de Yarshagumba. Je me suis dit que je me suis pris pour Rimbaud, si vous voulez. Je me suis dit que j'allais abandonner le journalisme et commencer du commerce. Avant de faire mon petit business, il fallait quand même, si vous voulez, le goûter, ce champignon. Donc, on m'avait expliqué le traitement. Une petite chenille dans un lait chaud ou dans de l'eau chaude par soir pendant comme ça 10 jours. Et puis, je retrouvais ma copine qui vivait à l'époque au Pakistan. Alors, je l'avais prévenue. Mais j'avoue que le premier soir, je n'ai pas senti un truc incroyable. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. Alors, on m'avait dit que c'était naturel. Donc, j'ai multiplié les doses par 10. Et là… Et là, j'avoue qu'en effet…
Et ça vous a coûté très cher. D'accord. Merci beaucoup, Constantin Simon, journaliste à France 24. On saura plus de choses dans le roman Yarshagumba. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Antonio Fischetti, vous qui êtes un journaliste scientifique,
oui.
Avant de vous égarer dans vos enquêtes sur les mœurs sexuelles des 7 milliards de voisins et votre livre Sac à dos et libido, est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène, qui est un phénomène à la fois végétal et animal, pour déboucher sur cet aphrodisiaque, le Yarshagumba ?
Bah, écoutez, il semble qu'effectivement, comme le disait Constantin, ce Viagra de l'Himalaya soit efficace, mais ce qui n'est pas le cas de beaucoup de produits qu'on suppose aphrodisiaque. Donc après, en général, les produits qui favorisent l'érection sont des vasodilatateurs qui permettent le passage du sang hein, dans les vaisseaux du pénis. Mais le problème, déjà, c'est que ça a un impact sur la biodiversité, notamment, par exemple, pour cette chenille, hein, donc ce champignon chenille de l'Himalaya, il est victime de son succès, puisque donc il y a des campagnes de récolte massives, et les scientifiques ont alerté sur la perte de ce produit, justement, hein, enfin, ce sont pas ce produit, c'est de la perte pour la biodiversité, et encore plus grave, c'est que il y a des animaux qui sont pourchassés pour leur vertu supposée aphrodisiaque, qui elle est totalement nulle et non avenue. Par exemple, la corne de rhinocéros, le cas classique. Les produits des pays asiatiques comme la Chine sont les premiers consommateurs de ce genre de choses. Et là, les rhinocéros sont pourchassés. Et la vertu est simplement, disons, magique, puisqu'on suppose une corne de rhinocéros, c'est dur, c'est gros, donc forcément ça favorise l'érection, alors ce n'est pas du tout le cas.
Il faut se rappeler le pangolin.
Pangolin aussi, les écailles de pangolin, voilà, sont aussi pourchassés. Et puis il peut y avoir justement des maladies qui sont dues ensuite. Alors, on en sait quelque chose. Donc effectivement, il faut alerter sur, traque, la persécution de ces animaux, de ces espèces pour la biodiversité, pour des vertus souvent fantasmées.
Est-ce qu'il y a, Antonio Fischetti, des cultures, des coutumes qui vous ont étonnée, je dirais, par rapport à l'ordre mondial du sexe, où le consentement des femmes et leur plaisir n'est en général pas le principal sujet. Est-ce qu'il y a des pays qui dérogent complètement à la règle là-dessus ?
Par rapport au plaisir des femmes, vous voulez dire ?
Oui, par exemple, par rapport, je ne sais pas, par exemple le Tibet, où vous racontez que la polyandrie, c'est-à-dire le fait d'avoir plusieurs maris, est quelque chose qui peut se pratiquer dans certaines régions.
Tout à fait. Alors, donc, la polygamie, c'est le fait pour un homme d'avoir plusieurs femmes, et la polyandrie, c'est l'inverse, c'est le fait pour une femme d'avoir plusieurs maris. C'est beaucoup moins répandu. La plupart des sociétés à l'échelle de l'humanité sont alors soit monogames, ont un seul partenaire, soit polygames. Mais il y a des sociétés polyandres où les femmes peuvent avoir plusieurs maris, notamment au Tibet. Mais alors, vous voyez, en fait, il faut souvent regarder les choses un petit peu au-delà de la façade, puisqu'on peut se dire, tiens, c'est bien pour les femmes d'avoir plusieurs maris. Il y a un avantage social, c'est-à-dire s'il y en a un qui meurt, par exemple, la femme peut être soutenue financièrement par un autre, et donc c'est à ça que ça peut servir aussi. Mais c'est pas forcément une libération de la femme, puisque c'est un peu comme s'il y avait plusieurs frères, souvent c'était le cas, plusieurs frères, ces maris sont des frères, qui se partagent la même épouse, d'une certaine façon. Vous voyez, ça dépend comment on regarde les choses.
Alors bien sûr, dans votre livre Sac à dos et libido, Antonio Fischetti, il y a beaucoup de pages consacrées au Japon.
Oui.
Sans qu'on enfonce des portes ouvertes, qu'on tombe dans les stéréotypes, parce que c'est vraiment le cas, le Japon, où, avec ces fameuses filles habillées en écolières, alors qu'elles n'ont pas du tout l'âge d'être des écolières, que ce sont des femmes adultes, et que c'est un peu considéré comme le code érotique, le truc qui finalement va être le plus excitant pour les hommes. Vous dites qu'on a tendance quand même à avoir de mauvaises interprétations. C'est-à-dire qu'en Occident, on va crier à l'appel à la pédophilie ou à un code érotique très malsain. Vous interviewez une spécialiste de la sexologie au Japon, qui connaît bien les codes culturels, etc. Et qui vous démontre qu'en fait, ça n'a rien à voir.
Oui, alors, à première vue, quand on va au Japon, on peut tout à fait être choqué d'une utilisation de la jeunesse par exemple dans les films pornographiques, dans l'érotisme, même dans les couvertures de magazines, qui seraient totalement tabous, qui ne passeraient pas du tout en Occident, justement. Et là-bas, ça ne pose aucun problème, puisque les codes sont beaucoup plus tolérants à l'égard de l'utilisation de l'image de la jeunesse. On peut, par exemple, effectivement, voir des filles qui semblent mineures, mais on ne sait pas si elles le sont ou pas, et joue là-dessus, par exemple, s'habille en écolière dans les rues où il y a les sex shops à côté de la gare de Tokyo, par exemple. Mais la vraie pédophilie dans les fêtes est tout aussi réprimée et punie.
On voit sur l'image. Ça correspond à quel fantasme dans la culture nippone ?
On fantasme sur l'innocence dévoyée un petit peu, c'est ça. C'est-à-dire que les fantasmes sont infinis.
C'est celle qu'on va initier d'une certaine manière.
Oui, voilà, c'est ça. C'est la jeune fille est un petit peu innocente. Jeune, qui ne connaît rien à la vie et qu'on va initier. C'est ça qui fait fantasmer beaucoup les Japonais. Et ça se retrouve dans beaucoup de choses. Par exemple, dans les mangas, ça se retrouve dans une sorte d'esthétisme des filles avec des couettes, habillées en rose, etc. Vous voyez, alors que nous, c'est notre tabou ultime en Occident, la pédophilie, l'utilisation de la jeunesse. Même si les filles sont majeures, elles ont bien plus de 18 ans, elles jouent là-dessus, effectivement. Il ne s'agit pas de mineurs, en tout cas pas forcément.
Votre voyage le plus mémorable sur ce sujet, Antonio Fischetti, quel serait-il ?
Oh, je crois que je dirais vraiment le Japon, Tokyo, c'est vrai qu'il y a des choses très surprenantes. Vous voyez, par exemple, les codes sociaux, culturels, font qu'au Japon, on se salue qu'à distance. On va pas se serrer la main, on fait simplement un signe de tête. Et c'est peut-être justement totalement lié à une sexualité imaginaire totalement débordante où il y a, par exemple, je cite dans le livre, je rentrerai pas trop dans les détails, mais disons, par exemple, les sex shops de Tokyo avec une utilisation des, disons, de la réalité virtuelle que je n'avais jamais vu ça. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de cabines dans une sorte d'établissement comme
donc,
un cinéma.
Où il n'y a pas de prostituées, donc.
Non, il n'y a pas du tout de prostituées.
Que des vidéos.
Il y a des vidéos, on vous donne un casque et, de réalité virtuelle, et puis après, vous avez accès à des dizaines et des dizaines de films, mais vraiment, on a vraiment l'impression que la personne est à côté, on a envie de la toucher, en fait. Hein. C'est totalement fantasmé, il n'y a même pas, on ne voit pas d'organes génitaux dans les films pornographiques japonais.
C'est tabou, le pouvoir de la suggestion,
de
finalement.
De la suggestion, de l'imaginaire, et puis il y a même par exemple, des love dolls, des poupées qui sont pas que simplement des poupées gonflables, mais extrêmement réalistes, qui sont vendues, que les hommes peuvent acheter et puis dont ils utilisent comme compagne. Il y en a qui l'amènent dans leur voiture, ce genre de choses par exemple.
Eh bien, merci beaucoup Antonio Fischetti pour ce tour du monde. J'espère qu'on n'a pas été trop loin pour nos auditeurs, qu'on s'est contenté aussi de suggérer pour vous permettre de mieux comprendre, de mieux décrypter. Tout cela est très culturel, hein, et pas si volage que ça. Sac à dos et libido, les pays racontés par leur sexualité. Aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci à vous, Antonio.
Merci à vous.
Si vous avez pris l'émission en cours de route et que vous êtes assailli de regrets, pas de panique, évidemment, elle est disponible en podcast, à écouter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Merci à l'équipe, Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Très, très bonne fin de semaine à vous, les voisins et les voisines. On se retrouve lundi. Lundi, nous parlerons des mobilisations citoyennes pour les droits humains. Comment les organisations de la société civile mobilisent l'opinion dans votre pays pour dénoncer des injustices, des détentions arbitraires. Vous pouvez bien sûr vous exprimer dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. Dans quelques instants, ce sera le journal. Juste après, Roméo Elvis, Quand je marche.
Quand je marche comme Ben Mast, je pense à des choses et le temps paraît se prolonger. Je fais une maquette, je l'exporte, je l'écoute. Je marche, satisfaction de jours de congé. Mais quand je rentre chez moi et que je chante un nouveau refrain que j'avais dans la tête, je me dis que j'ai de la chance d'être en vie et de faire ce métier. Alors c'est le moteur, j'arrive pas à étudier le code. Je vais le perdre le jour où je l'aurai à cause d'un test de drogue.
C'est vrai, en plus, c'est sûr.
Ouais. Toujours à la recherche des vieux morceaux de l'or du commun. Sur les plateformes, évidemment. La balade m'amène au pied de la base de l'atomium. Hey. Quand je marche comme Ben Mast, je pense à des choses et le temps paraît se prolonger. Je fais une maquette, je l'exporte, je l'écoute et je marche, satisfaction de jours de congé. Mais quand je rentre chez moi et que je chante un nouveau refrain que j'avais dans la tête, je me dis que j'ai de la chance d'être en vie et de faire ce métier. Alors, faisons la fête. Le rap ne m'aime autant que je l'aime. Et si je vais une fois par an à Los Angeles, c'est une question de législation. Puis en Belgique, y'a pas de soleil. J'ai des réflexions immatures. Je prends la place et je fais du bruit comme 10 voitures. Si je cours pas assez, j'y vois plus rien. Ça devient flou, comme en miniature. Quand je marche comme des masses, oui, je pense à des choses et le temps paraît se prolonger. Je fais une maquette, je l'exploite, je l'écoute et je marche, satisfaction de jours de congé. Et quand je rentre chez moi et que je chante un nouveau refrain que j'avais dans la tête, je me dis que j'ai de la chance d'être en vie et de faire ce métier. Alors, faisons la fête.
De voisins, c'est fini.